prendre la pause de midi, on va faire une troisième présentation qui aussi va revenir sur un autre aspect qui a été déjà un peu évoqué dans ta présentation, vu qu'on a vu qu'au-delà des mots, il y avait aussi des symboles et des visuels. Et là, c'est donc Siourinski, donc Philippe Guenin qui devait intervenir en troisième, malheureusement, n'a pas pu venir aujourd'hui, faute de train, donc c'est la présentation de Siourinski. Donc Siou, je ne sais pas si tu veux venir devant, et donc qui a parlé de son travail de photographie. Et normalement, elle devait aussi faire cette présentation en binôme avec Natacha Jaffery d'Ombre, qui malheureusement ne peut pas venir non plus aujourd'hui. Donc, tu veux t'asseoir ici et la présentation, elle est prête.
C'est un vrai plaisir de travailler et apprendre avec Natacha. Et c'est dommage qu'elle n'a pas pu être ici aujourd'hui.
Tout réflexif sur une pratique photographique participative dans l'univers du punk.
Oui.
États-Unis, France.
Oui. Donc, ça, c'est le titre de la présentation de Natacha, mais en fait, c'est un ensemble. Et Natacha n'a pas pu être ici, donc elle s'est filmée. Mais donc, on va faire rapidement un résumé de mes photos sur lesquelles elle a basé sa présentation. Et puis ensuite, on va lancer le sien. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas de son. C'est l'image. Donc là, on est en train de voir des photos de mes débuts, mes toutes premières photos sur la scène punk à Détroit en fin des années 70. Et donc, c'est un exemple de la vision que j'avais de l'époque, de ce que j'ai vécu. Et puis, un mélange aussi avec des photos plus récentes. Donc, Natacha va parler de... des personnages, mais aussi des fragments de corps. Elle va parler des gens qui dansent, elle va parler des gens qui s'amusent. Voilà, donc les fragments sans tête, qui sont des sortes d'esthétiques que j'ai pris tout naturellement. Et maintenant, on va passer à la présentation de Natacha avec le son.
Alors bonjour, je suis Natacha Jaffery, je travaille avec Siourinski autour d'une collaboration qu'on a appelée, pour ce qui est de ma propre intervention, Retour réflexif sur un travail photographique participatif dans l'univers du punk France-USA. Donc c'est un dialogue entre une photographe et une anthropologue. Donc le principe, deux membres du PIND donc, se réunissent sur la base de leurs pratiques respectives et tisse une relation propre à interroger l'exercice artistique de la première, donc photographe, qui est en immersion dans l'univers du punk rock, d'abord à la fin des années 70, à Détroit, donc ce qui est sa ville d'origine, puis de nouveau au XXIe siècle, dans la région parisienne. Et donc, elles avancent, donc nous avançons plusieurs hypothèses sur l'usage de la photographie dans les sciences sociales. Alors, suite à notre rencontre l'année dernière, 2017, dans le cadre d'une journée du PIND, on a décidé, Siourinski et moi, en début 2018, de confronter nos points de vue sur la manière d'aborder l'observation du phénomène punk et d'en présenter des conclusions provisoires, pour ce qui est de moi, définitive dans mon cas et provisoire pour Siou qui va continuer le travail lors de cette journée d'études, donc du 23 juin 2018. Alors, partant du principe que l'une est ethnologue et l'autre photographe, l'idée n'était pas, comme j'avais pu le faire avec d'autres photographes au cours de collaborations scientifiques, d'illustrer un propos ou de documenter une recherche, mais bien d'interroger la pratique d'une artiste singulière. Alors, de considérer ce médium à la fois dans son esthétique et dans sa capacité à archiver et à documenter une population, ici une scène musicale, comment les gens se regroupent autour de l'exercice et de l'écoute de la musique. Qu'y font-ils de particulier qui rend ces moments intenses et forts? Pour moi, il s'agissait d'encourager Sou, rompu à la scène punk depuis son adolescence à Détroit, et entré en coulisses, dans les coulisses des plus grands groupes de garage de cette époque. Donc, je cite Destroy All Monsters, Sonic's Rendez-vous, Iggy Pop et The Boners, à faire un mouvement de retour sur son propre parcours à travers sa propre production d'images, et à préparer donc des actions futures auprès des scènes françaises qu'elle continue de fréquenter assidûment. Alors en lui fournissant quelques outils venus de l'anthropologie, comme l'observation participante, le regard éloigné, En discutant avec elle à bâton rompu, mon but était de l'aider à ouvrir un regard, un œil neuf sur son propre matériau. Alors, je vais ouvrir une première partie méthodologique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a échangé des annonces de journées d'études et de séminaires auxquelles on allait ensemble ou non. Donc on allait à des colloques, des séminaires, des journées d'études, des présentations également dans des institutions qui hébergent la photographie. J'ai comme ça suggéré à Sue quelques séminaires comme celui de Jean-Paul Collen à l'EHESS qui s'appelle « Pour une anthropologie visuelle pluridisciplinaire et multimédia ». Il y a eu aussi les journées d'études EHESS Quai-Branly qui s'appellent « Rencontres entre écriture ethnographique et formes artistiques, les mises en scène du divers ». Il y a eu aussi un séminaire auquel elle n'a pas pu assister parce qu'il date de 2013 et qu'il il s'est situé aux États-Unis, mais dont elle a pu récupérer la très intéressante biographie, c'est celui de Tara Rogers, Music and Image au Dartmouth College, qui, je cite, étudie la relation historique liant le son et l'image dans la culture occidentale. Alors, on est aussi allé ensemble à des présentations, par exemple au 104, une table ronde qui s'appelle Photographie et transgression. La numéro 2, fiabilité de l'image, n'avait pas beaucoup de sens pour ce qu'on fait. Là, sur ce projet, donc, mais plutôt le numéro 1 auquel je n'ai pas pu assister, Photographier l'intimité avec Antoine D'Agata et Sébastien Gocal qui était commissaire d'expo sur Kiss de Larry Clark. Et c'est ainsi que Sue a pu me dire combien elle se sent éloignée de l'univers de D'Agata, mais aussi celui de Nan Goldin auquel on compare trop souvent son travail. Alors, aux journées d'études de HESS, rencontre entre écriture ethnographique et formes artistiques, qui abordait entre autres, je cite, l'expression artistique comme outil de dialogue avec l'anthropologie, l'interrelation entre l'art et la recherche, ou encore l'intérêt d'écrire visuellement le social. Sue a trouvé particulièrement intéressante la présentation de François Laplantine, intitulée Corps, rythme, geste, langage, image, parce que celui-ci abordait l'énergie sur la base de ses recherches en Asie, en termes de flux qui circulent dans un vide que viendraient remplir non pas des polarités fixes, mais des forces qu'il s'agit de capter dans leurs amplitudes et dans leurs variations. Et ça a particulièrement résonné chez Sue, pour qui est assez attentive au déploiement des énergies, précisément. Ainsi, par exemple, la photographe choisit-elle des moments, les moments les plus extrêmes, les plus forts, ou bien des moments d'intensité moindre ? Quelle part du réel excédant le langage sa photographie met-elle en évidence ? Quel rapport à la compréhension du réel, au sens de compréhension, de saisir, d'inclure, la photographie offre-t-elle ? Dans ce sens, la présentation de Magali Hull, toujours à ce même séminaire, axée sur l'image comme mode de connaissance des faits de société, a permis à Sue d'apprendre l'existence à Harvard du Sensory Ethnography Lab, qui, je cite, promeut des combinaisons innovantes de l'esthétique et de l'ethnographie. Toutes ces pistes donc, ont permis à Sue de commencer à une analyse, de mettre des mots sur sa propre production visuelle et de découvrir en quoi ce travail pouvait se poursuivre d'une façon renouvelée et enrichie de cette incursion dans la jeune, relativement jeune discipline qu'est l'anthropologie visuelle. Chez Sue Rinsky, l'objet d'étude sont des hommes et des femmes qui font la fête, qui se réunissent autour d'une musique jouée live, qui partagent un même bain sonore, qui libèrent et respirent d'innombrables phéromones, qui jouissent du plaisir d'être réunis et de ressentir au même moment les effets d'une même musique qui est jouée pour eux. Alors Sue raconte assez facilement cet épisode, ce qui l'a attiré. En fait, au cours d'une répétition, au cours de l'été 77 du groupe Destroyer Monsters, elle s'était trouvée portée par l'énergie du guitariste Ron Ashton et elle dit « J'ai réalisé que je bougeais avec la musique et que j'avais failli arracher le levier de mon appareil photo. C'était la force de son jeu de guitare qui est entrée dans mon corps et m'a propulsée. La musique était en moi et j'étais en parfaite symbiose. » Alors on peut donc parler dans le cas de Sue d'une véritable participation qui implique le corps et les sens de l'artiste, à la fois créateur et observateur, à la fois auteur de l'image, témoin de la scène, dans le réel et légèrement au bord, justement pour conserver cette capacité du regard. Alors on est loin de la juste distance de l'ethnologue, mais je trouve intéressant que Sue connaisse ce concept pour éventuellement le critiquer ou simplement pour s'en détacher. Tout simplement, pourquoi pas ne pas s'en revendiquer. En tout cas, je voulais que Sue situe son expérience dans un champ plus vaste, celui des sciences sociales, et qu'elle trouve là-dedans son propre chemin. Voilà pour ce qui est de la méthodologie. Je voudrais passer à la partie 2, questionnement. Donc, j'ouvre quelques questions dont elle se saisira ou pas, et qu'elle complétera très certainement. Alors, on a regardé toutes les deux la production, on a visionné cette production, une partie de cette production, ancienne ou récente, et puis je suis allée voir sur Internet un peu ce qu'elle mettait en avant, ou ce que d'autres mettaient en avant. Mais le but n'était pas que je fournisse une analyse de son travail. Bien au contraire, je voulais qu'elle essaie de lui donner les moyens, de l'aider à commencer un travail réflexif qui serait personnel. Ce qui me paraissait important de souligner pour leur auteur, c'est la dimension temporelle déjà de son œuvre. Dans les deux sens de temporelle, déjà parce que entre ses débuts dans cette pratique puis dans le métier, à mesure qu'elle s'est professionnalisée, quelles ont été depuis donc ses débuts, ses évolutions. Pourquoi avoir repris la photographie du rock après une assez longue absence, et en quoi ça résonne avec sa propre conception de l'existence, du travail, des loisirs. Mais temporel aussi dans le sens où le milieu lui-même a changé musicalement, mais aussi plus largement esthétiquement, dans ses valeurs morales. Et grâce à la longévité de son parcours, je pense que Sue est en mesure de proposer donc cette diachronie. Alors parmi les questionnements que je lui propose, comment la photographie peut-elle être utile à la recherche dans le domaine des pratiques musicales? Est-ce qu'elle peut rendre une partie de la dimension auditive et plus largement sensible d'un concert? Comment peut-elle, comme le font les mots, rendre compte du réel en dépit du fort biais que constitue la signature de l'auteur, un peu comme un écrivain, qui attire notre regard dans ses champs d'intérêt, voire dans ses obsessions? Par ailleurs, en quoi la photographie est-elle à la fois un miroir et un médium, un processus de construction de l'image, qui devient donc collective dès lors que le modèle, le sujet, objet de la photographie, est conscient que son image est captée? Donc là, on est un petit peu dans les mêmes questionnements qu'en anthropologie, avec l'anthropologie postmoderne, avec les notions de texte négocié, de texte participatif ou dialogique, dans lequel l'informateur devient peut-être parfois de façon excessive, en tout cas par excès inverse par rapport aux premières ethnographies coloniales, où l'informateur devient un co-auteur. Alors, que signifie pour l'auteur dans cette construction les choix de cadrage et de sujet? La question de l'intime, du public, la légitimité évidemment du photographe sur le terrain, et puis enfin le rôle de l'empathie dans l'appréhension de ce terrain. Parce qu'évidemment, pour assister à autant de concerts, il faut y prendre plaisir, il faut y trouver un intérêt. Alors, dans ce cas, comment la photographe négocie-t-elle sa place et son identité au sein de scènes qui sont ouvertes au public, mais qui sont aussi souvent endogame et parfois un peu soucieuse de conserver leur autonomie vis-à-vis du reste du corps social. Et là, peut-être que Sue peut s'appuyer sur ce qu'écrivait Ralph Marceau, pour qui, je le cite, « il s'agit d'inventer un espace intermédiaire, trouver un interstice ». Et je crois que c'est le journal des anthropologues, je vous donnerai les précisions bibliographiques par écrit. Parce que c'est un petit peu long, et donc si j'ai bien compris Ralph Marceau, c'est une co-construction, donc elle peut éventuellement se situer par rapport à cette proposition. Comment par ailleurs la photographe elle-même se trouve peu à peu transformée dans son approche de la photographie participative qu'elle pratique par sa fréquentation de l'univers universitaire, qu'elle pratique aussi depuis quelques temps, donc les séminaires, les journées d'études du PIND, sa collaboration avec le PIND. Donc il était à mon avis essentiel et souhaitable que Sue rende ses questionnements lisibles et les partage avec nous. Parce que si la photographie est bien un discours sur le monde et peut constituer un langage, notamment scientifique, puisque l'anthropologie s'en est saisie dès son apparition, la photo au 19e siècle puis le film au 20e siècle, se tourner vers elle comme objet permet de rendre compte du processus complexe qui fait passer la forme visuelle d'un événement passé à sa contemplation et sa diffusion actuelle à travers un certain nombre de filtres, de cadres, parmi lesquels donc, on a le regard, le fameux œil du photographe, mais aussi son vécu physique, psychique, émotionnel de l'événement lui-même, puis la sélection du cliché, son éventuel recadrage ou son traitement, puis sa sélection parmi d'autres clichés, et enfin éventuellement sa publication dans le cadre d'une expo ou d'un livre. Alors selon Sue, c'est assez drôle, les chercheurs trouvent souvent dans l'image des informations que le photographe n'y a jamais mis, en tout cas dont ce n'était pas l'intention. Par ailleurs, elle considère que la recherche visuelle est davantage qu'une démarche scientifique en photo. C'est pour elle une démarche à part, et elle s'en expliquera probablement dans son intervention. Elle m'a dit qu'elle évite de recadrer ses clichés, qu'elle construit son cadre avant d'appuyer sur le déclencheur en fonction de l'image qui se présente à son esprit. Elle ressent le mouvement, elle voit la composition graphique qui se présente, et là elle shoot. Ce sont par ailleurs toujours des clichés volés, parce qu'elle déteste qu'on lui présente quelque chose. Elle préfère percevoir de l'autre quelque chose ou de l'environnement et choisir. Ensuite, elle observe donc ce cliché, elle se demande ce qui lui inspire et elle le sélectionne ou pas. Autre questionnement que je propose à Sue, comment le terrain à Sue et à nous-mêmes, comment le terrain lui-même à travers Sue, mais aussi à travers d'autres acteurs, donc, comme je disais, qu'ils soient ou non universitaires, souvent amateurs eux-mêmes des musiques et des univers qu'ils fréquentent et qu'ils étudient, comment ce terrain lui-même est in fine impacté par la recherche qui est portée sur lui. C'est une question plus vaste qui dépasse largement celui du seul travail de captation photographique et que nous devons tous nous poser, je pense, ici. Ainsi, depuis le début du PIND, quels sont, de ce point de vue, donc, les effets de cette recherche par exemple, des groupes se sont-ils reformés? Est-ce que des acteurs ont repris contact? Est-ce que des conflits anciens ou des amitiés ont été ravivés? Ça va même certainement au-delà. Il faut se poser la question, donc, sur le temps long, des effets de notre recherche sur donc le terrain lui-même. Et les hommes et les femmes qui en font partie. Je vais terminer brièvement avec une toute petite analyse ou une ébauche d'analyse des images de Sue. Je ne voulais pas le faire, mais je peux, à mon avis, juste proposer mon propre regard, mais très brièvement, et encore, c'est juste une partie de cette analyse. Alors, j'ai vu pour ma part de l'émancipation féminine, une certaine libération des corps, qui semble vécu, des corps en général, quel que soit le genre, vécu sous l'ordre de la jubilation, du plaisir, de la communion des sensations. J'y vois beaucoup de sourires plutôt que des rictus ou de la bouderie auxquelles l'habituelle imagerie du punk créée par les médias très construite donc, nous a habitués. On sent les effets de l'ébriété, mais aussi de l'ébriété musicale, du plaisir, de quelque chose donc, de l'ordre de la sensation. Pour ce qui est du genre, j'aborderai les choses très, très brièvement, mais pour reprendre une expression du groupe d'histoire du genre du Centre de recherche historique, un séminaire qu'on a malheureusement manqué d'une journée, donc pour reprendre une expression de ce groupe d'histoire du genre, les mécanismes théâtraux de la représentation de soi comme être genré doivent, à mon avis, être pris en considération quand on s'intéresse à des productions comme celle de Sue. J'en dirai pas plus, je pense que si elle le souhaite, elle en parlera elle-même. D'un point de vue graphique, la construction de ces photos dit quelque chose de sa perception des corps, comme si elle avait voulu les saisir un peu par morceaux, en plongée ou en contre-plongée. Elle nous donne à voir des moitiés, voire des fragments du corps, parfois même la tête est absente, comme pour dire la prééminence du corps sur l'esprit ou l'identité, à quoi en Occident on associe le visage. La contre-plongée nous place aussi à hauteur d'enfant, comme si on était happé malgré nous par ces corps festifs et comme si on retrouvait des sensations enfantines de bonds, de rebonds, de tournoiements, de mouvements erratiques enchaînés pour le plaisir du déchaînement. Pour ce qui est du côté construit de ces images, ce côté construit lui vaudrait la réputation, je cite, de faire des environnements, c'est l'expression qu'elle m'a rapportée, comme par exemple avec le portrait de la fille à l'accordéon. Je ne sais pas si on le verra, qui est en effet très graphique, très géométrique. Et c'est la géométrie de l'ensemble de ce qui est cadré qui inspire Sue. Elle dit l'action, l'émotion, le mouvement, le cadrage. Voilà ce qui prime pour elle. Quant au passage de la couleur, du noir et blanc à la couleur et de l'argentique au numérique, en fait, elle en est ravie. À ses débuts dans les années 70, évidemment, le noir et blanc était le seul standard pour la photographie d'art. Et elle maîtrisait bien sûr la technique, la prise de vue, le développement de la pellicule avec ses propres recettes, le tirage et même des techniques de préparation pour imprimerie. Et en fait, pour Sue, étant un peu comme pour le punk, l'important c'est de tout réaliser soi-même de A à Z. Et en fait, le numérique lui a offert, depuis le début des années 2002-2004, quelque chose que l'argentique ne pouvait pas, la liberté de travailler la couleur. Parce qu'il fallait, pour travailler la couleur en argentique, des labos et quelque chose d'assez complexe, d'assez lourd. À tel point, donc, elle en est tellement ravie qu'elle dit « je ne vois plus en noir et blanc ». Mais c'est un passage tout à fait heureux. Donc. Pour ce qui est maintenant du côté musical de l'écriture, comme je le disais plus haut, elle a pris conscience un jour que la musique et son énergie armaient son bras et son appareil. Elle explique « sur le moment, je n'ai pas ressenti de correspondance de l'image avec le son. C'était plutôt mon corps en train de créer l'image sous l'emprise de cette force. Et non pas que je faisais des images pour aller avec la musique. » C'était les hippies qui, à l'époque, cherchaient à créer des images en correspondance avec la musique. Et c'est en effet donc toute l'énergie du punk, sa tonicité, qui se donne à voir dans les images de Sue Rinsky. Et en cela, elle est un partenaire évident d'une recherche telle que la Menlo-Pind. Axée, comme il a été rappelé par Solveig Sær, moins sur la sociologie du mouvement, comme tendent à le faire les anglo-saxons, que sur la musique comme sensation et comme phénomène. Donc, phénoménologie versus sociologie, par ce choix épistémologique, Sue Rinsky, sans le savoir, inscrivait son travail dans les axes défendus par le PIN. Et je m'arrêterai là pour lui laisser le temps donc, de présenter les fruits de ses réflexions et de ses recherches. Et je vous remercie.